Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et Franck Ferrand, vous nous proposez une émission pleine de musique cet après-midi sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Paganini, Heifetz, Oistrakh, Perlman, les grands violonistes fascinent les foules depuis deux siècles. Pour évoquer leur immense talent, je vous en propose un autre. Alain Duo nous fait l'amitié d'être des nôtres aujourd'hui. Musique maestro.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Nous sommes à la fin du mois d'avril 1893 dans un cimetière de Parme. Une poignée d'individus s'approchent d'une tombe célèbre, puisque c'est celle de Niccolo Paganini, ce violoniste qui aura subjugué l'Europe du début du XIXe siècle. S'ils sont venus, ce n'est pas juste pour déposer une gerbe ou pour se recueillir sur la tombe. Non, non, ils sont là pour ouvrir la sépulture. En effet, un célèbre musicien de l'époque, un Tchèque, Ondříček, qui est de passage dans la région, a formulé une demande un peu particulière auprès des descendants de Paganini, voir le corps de celui qui est plus qu'une idole pour lui, qui est l'inspirateur suprême. Et aussi bizarre que ça paraisse, il a été exaucé. Les quelques participants à ce qu'on ose appeler une cérémonie peuvent donc observer, dès que la bière est ouverte, le visage du musicien aux traits encore identifiables. C'est un moment sans doute à la fois solennel et franchement étrange. Voici en tout cas Paganini, même 53 ans après sa mort, encore victime de cette espèce de fascination qu'il exerce, encore obligé, si j'ose dire, d'assurer le spectacle, en l'occurrence un spectacle funèbre. Ça La légende, une nouvelle fois, le dépasse et l'expose. Pour comprendre jusqu'où a pu se hisser la fascination pour Paganini, il me semble qu'il faut revivre sa vie, tout simplement. Il faut revenir un siècle plus tôt, lorsque naît Niccolo à Gênes, le 27 octobre 1782. Son père est négociant du port, en tout cas ce qu'on nous dit, et le petit Niccolo va donc grandir dans un milieu, disons-le, plutôt modeste. Logiquement, il devrait se diriger vers une vie non moins modeste, assez ordinaire, disons seulement, voilà, dans la famille Paganini, on aime la musique. Ce qui fait qu'on va assez tôt placer entre ses mains de petits instruments et, dès le départ, une légende teintée de surnaturel vient se mêler à l'histoire de Niccolo et la teinter. Comme Paganini l'a raconté lui-même, je cite, « À l'âge de 5 ans et demi, j'appris la mandoline de mon père. Vers ce temps, le sauveur apparut en songe à ma mère et lui dit de demander quelque grâce. Elle désira que son fils devint un grand violoniste, ce qui lui fut accordé. » Une chose est certaine, dès que le jeune Niccolo se met à pratiquer le violon, ça veut dire qu'il a même pas 7 ans à l'époque, c'est une révélation. En un rien de temps, il atteint et dépasse le niveau de son père et on va devoir se mettre en quête d'un professeur qui puisse développer un talent si prometteur. Le jeune prodige va alors désarçonner un certain nombre de maîtres, c'est bien simple, ils sont tous dépassés par le phénomène. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. À 9 ans, Niccolo joue déjà en public, il a commencé déjà à l'époque à composer. On peut dire que Gênes devient bientôt trop petite pour lui et son père, qui est très ambitieux, qui est assez sévère aussi, qui est une sorte de Léopold Mozart, version très mineure si vous voulez, son père le comprend. Alors que Niccolo a 13 ans, il le conduit lui-même jusqu'à Parme pour y trouver un enseignant à sa mesure capable de comprendre son penchant bien réel pour les innovations musicales, car il faut constamment du neuf au génie naissant de Paganini. Alors, on va le voir fréquenter un certain nombre de violonistes et de compositeurs éminents. Le jeune homme travaille et travaille, il progresse jusqu'à un niveau exceptionnel. Dès lors, l'adolescent va cesser toute leçon de violon avec un professeur, raconte Xavier Rey. Il a atteint la plénitude de ses moyens techniques et tous les tours de force qu'il mettra en œuvre dans ses compositions ultérieures font déjà partie de son bagage violonistique. Ça paraît un peu improbable, mais c'est la vérité. Il n'a pas 18 ans, ce jeune homme, avide d'indépendance et de succès, lorsqu'il participe à un grand festival, le festival de Luc. Et pour pouvoir y jouer, il faut quand même passer une sorte d'examen de sélection, bien entendu. Alors, ses concurrents le voient arriver avec sa silhouette un peu dégingandée, comme ça il est tout maigre, un peu étrange, avec un instrument bizarre. On se moque de lui, il faut le dire. Seulement, à un moment, il se met à jouer. Et là, c'est le silence. Un silence fait de respect et d'une admiration immédiate, pas de doute. On a en face de soi un des violonistes les plus inouïs qu'on puisse trouver. Sans doute, peut-être, le meilleur qu'on ait jamais entendu. Aucun des autres candidats ne va oser se mesurer cette année-là à cette espèce de phénomène dont la virtuosité est extraordinaire. Peut-être un peu démonstrative, il faut bien le dire. Alors, il y a des morceaux très difficiles qu'il exécute avec une dextérité incroyable. On a l'impression que ses mains sont littéralement élastiques. Elles tirent du violon les sons les plus surprenants. Il arrive à donner au violon il lui fait sortir tous les sons, des cris d'animaux, des notes de flûte, même un grincement de porte. Il est capable de tout, ce Paganini. Pas étonnant qu'il soit donc nommé très peu après premier violon de la République de Luc. On se dit là, il va quand même savourer son autonomie. Il a échappé à la tutelle de ce père tellement exigeant, etc. Mais il continue, lui, à travailler sa technique. Il vit à l'époque ses premières histoires d'amour. En 1805, quand la sœur de Napoléon Ier, quand Elisa Bonaparte et son mari sont créés souverains de la principauté de Luc et Piombino, Niccolo est tout naturellement placé au service de leur petite cour royale. Et on dit qu'Elisa adorait écouter Niccolo Paganini. On dit même que parfois, en l'écoutant, en essayant de suivre sa virtuosité, elle finissait par s'évanouir. Cette vie de musicien de cour, qui était évidemment marquée par une certaine servilité, cette vie va durer plusieurs années. De plus en plus, Niccolo a l'air de s'en lasser. Il a un caractère fier, libre, passionné. On raconte qu'un jour, il se met dans une position délicate pour avoir critiqué le talent de violoniste du souverain lui-même. Un autre jour, il résiste à des ordres qui ont été donnés à Elisa. Finalement, en 1809, il quitte la petite cour. C'est certain, un autre destin l'attend. Un destin aussi brillant que semé d'embûches.
Extrait du concerto pour violon et orchestre composé par Tchaïkovski sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous avez décidé de rendre hommage au grand violoniste et vous vous êtes intéressé à la vie de Niccolo Paganini avec une année très importante.
L'année 1810 est pour Paganini, note Xavier Rey, celle de la liberté. Il a un peu plus de 27 ans, il n'a de compte à rendre à personne. Cette liberté conquise après 20 années de travail, de sacrifice, d'humiliations et de vexations. Cette liberté, il va essayer d'en profiter au maximum. Niccolò se lance alors dans ce qui va occuper la majeure partie de sa vie, c'est-à-dire les concerts. Et l'on fait toutes sortes de tournées de concerts. Une vie qui lui assure l'indépendance dont il semble avoir besoin, au risque d'une certaine solitude. À chaque représentation, on voit grandir un peu sa renommée de ville en ville. Il laisse derrière lui un public pantois d'admiration, sans doute même un peu incrédule devant un tel déploiement d'énergie, de fantaisie, d'inventivité. Comment un homme normal pourrait-il jouer ainsi? Quel est son secret? C'est à cette époque probablement qu'a lieu un événement singulier. Un peintre qui a entendu parler du talent du prodige va à sa rencontre et le met au défi. S'il est capable de jouer à première vue un concerto extrêmement difficile de son choix, il lui donnera un instrument qu'il possède et qui se trouve être un Stradivarius. Niccolò accepte le défi évidemment et sous le regard qu'on peut imaginer effaré du peintre, il exécute le fameux morceau à la perfection. Ça fait partie de la légende, ce que je vous raconte là. Mais cette légende va évidemment croître, embellir. C'est sur scène que Niccolò va l'affermir, cette légende, avec son nouveau Stradivarius, bien entendu. En octobre 1813, à la Scala de Milan, il remporte un succès tel qu'on n'en avait jamais vu. Voilà ce que note à cette époque un critique allemand, je le cite. Ces variations sur la quatrième corde émerveillent tout le monde parce qu'on n'avait jamais rien entendu de tel. Cet artiste unique en son genre ne pouvait satisfaire son public en un seul concert et en l'espace de 6 semaines, il fut obligé d'en donner 11 autres. Les années vont ainsi défiler dans une triomphale tournée à travers l'Italie. Pour ce qui est de la vie privée de Niccolò Paganini, alors là c'est nettement plus compliqué. Outre son goût pour le jeu, il faut dire qu'il est une sorte de cœur d'artichaut. Il a un physique, je vous l'ai dit, assez particulier, mais il dégage un réel magnétisme. Il a ce regard sombre, cette chevelure touffue qui lui donne un certain charme. Or, il aime plaire. Il n'adore qu'une chose, séduire. Il n'est pas rare que cela le mette dans des situations très délicates. Par exemple, en 1815, il est accusé de détournement de mineurs par le père d'une de ses conquêtes. Elle a quand même 18 ans, mais enfin, vous savez qu'à l'époque, la majorité est un peu plus tardive. Les choses vont loin, puisqu'il va quand même être condamné à aller passer 8 jours en prison. Tout ça va nourrir le mythe noir de l'artiste. On va en rajouter beaucoup, bien entendu, on ne prête qu'aux riches. On racontera que Niccolò a été condamné pour meurtre, ou même que c'est en détention qu'il a acquis sa maîtrise du violon. Tout ça est invraisemblable, bien entendu, mais il faut dire qu'il a en même temps des soucis de santé. Il est probablement atteint de syphilis, il va subir des crises terribles qui vont de plus en plus l'obliger à s'interrompre. Quant aux remèdes qu'il tente, ils aggravent son cas sans qu'il le réalise vraiment. Ces années, dès cette époque-là, ces années sont comptées. Pour l'instant, Niccolò Paganini a atteint une réputation sans égale. Il se fait connaître aussi comme compositeur, il faut quand même le souligner. C'est à cette époque, par exemple, qu'il achève ses 24 caprices pour violon seul, qui est un véritable défi pour tout violoniste. Il faut bien y passer un jour, et ça n'est pas facile, bien entendu. Niccolò est relativement connu maintenant hors d'Italie, bien qu'il n'ait toujours joué qu'en Italie. Et on se met partout à attendre sa venue. En 1819, il rencontre le ministre autrichien Metternich, vous savez, le célèbre Metternich, à Rome, et Metternich le convie à venir se produire à Vienne. Simplement, Paganini a beaucoup d'engagement. Il va mettre 9 ans à répondre à cette invitation. Il ira accompagné de son fils chéri, Achille, qui est né d'une de ses liaisons les plus durables. Seulement, quand il gagne l'Autriche en 1828, il faut reconquérir le public, si je puis dire. C'est vrai que son talent lui a bâti une solide renommée, mais il y a toutes ces frasques, réelles ou imaginaires, il y a toute cette réputation sulfureuse qui font que certains le voient comme une sorte de charlatan. Edward Neil le raconte, je le cite. Malheureusement, l'arrivée de Paganini à Vienne avait été précédée des habituels ragots, si bien que la première moitié de son premier concert se déroula devant une salle à moitié vide. Mais durant l'entracte, les musiciens présents se précipitèrent dehors, invitant les incrédules à venir assister au concert, ce qui fit que la salle se remplit en peu de temps. Ça, c'est quand même extraordinaire. D'habitude, on peut voir des salles pleines au début et un peu moins pleines après l'entracte, mais là, c'est l'inverse qui se passe. Vous avouerez que ça n'est pas banal. Il suffit que Paganini joue pour que sa présence tourne au triomphe. Et c'est le cas à Vienne, où il devient un véritable phénomène, c'est bien simple. On ne parle bientôt plus que de lui, de son personnage hors norme, et bien sûr, de ce talent unique qui n'en finit plus de subjuguer les foules. Schubert le voit jouer à cette époque, il s'exclame ébahi. Dans l'Adagio, j'ai entendu chanter un ange. C'est Schubert qui parle. Plus que les prouesses techniques et les effets de manche de Paganini, c'est son interprétation qui frappe, qui bouleverse, car même si Niccolo est déjà affaibli par la maladie qui maintenant le ronge, son don, cette espèce de don tellement mystérieux, son don reste le plus fort, en tout cas pour le moment.
Cet après-midi, les grands violonistes sont à l'honneur sur Europe 1. Vous nous parlez de l'incroyable vie, l'incroyable succès de Niccolo Paganini. Franck Ferrand, d'ailleurs, si vous voulez réagir à cette émission, posez vos questions à Franck ou tout simplement apportez vos témoignages, eh bien, rendez-vous sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Niccolo Paganini, le violoniste, est à l'honneur cet après-midi sur Europe 1 avec vous, Franck Ferrand, un violoniste qui a eu énormément de succès.
À partir de 1828, Niccolo Paganini va poursuivre une grande tournée européenne. Il est tout auréolé de ce succès viennois qui l'a assis d'emblée au niveau des plus grands. Le voilà en Allemagne, en Pologne, partout. Ce sont les mêmes scènes, des auditoires transportés, des rencontres avec les souverains locaux, bien entendu, toutes sortes d'hommages, vous pouvez l'imaginer. Et au milieu de tout cela, tout de même, quelques critiques un peu plus réservées. Par exemple, le violoniste allemand Louis Spohr qui voit dans la musique de Paganini, je cite, « un étrange mélange de génie consommé, d'enfantillage, de manque de goût, si bien qu'on est à la fois charmé et rebuté ». C'est peut-être le secret, somme toute, de ce compositeur et surtout interprète. Les rumeurs et les polémiques aussi continuent de suivre, Niccolo Paganini. On le dit peu généreux envers les siens, on brode à l'envi sur sa supposée cupidité. Il faut reconnaître que le coût des billets de ses concerts est souvent complètement incroyable. Ça atteint des sommets encore jamais vus, même avec Liszt. Surtout, on ne tardera pas à raconter qu'il a conclu un pacte avec le diable. Et oui, comment expliquer autrement un génie aussi voyant, aussi extraordinaire? Et c'est là sans doute la rançon de la gloire, car il est certain que le musicien génois atteint dans son épuisant tour d'Europe un nouveau degré dans sa carrière. Il est devenu de son vivant un véritable mythe. Vous savez, quand on parle d'une légende vivante, eh bien c'est exactement le cas. À son arrivée à Paris, on est au début de l'année 1831, donc au début du règne de Louis-Philippe, les plus grandes célébrités du temps se pressent pour venir applaudir l'espèce de phénomène. Il y a dans la salle Delacroix, Musset, Rossini, George Sand, bien entendu. Et c'est Xavier Rey qui raconte. La popularité de Paganini parmi le bon peuple de Paris est comparable à celle qu'il a connue à Vienne ou dans les grandes métropoles allemandes. Chaque fois qu'il sort de son hôtel, les Parisiens le reconnaissent, l'entourent, l'acclament, lui font cortège. Paris vit à l'heure de Paganini. Seulement, peu à peu, cette fascination qu'il exerce, les attaques dont il est l'objet, le comportement peu discret qu'il adopte en toutes circonstances ont tendance à lasser. On le voit un peu dépérir. Il se sent très seul, il est loin de chez lui. Et tandis que sa tournée se poursuit dans les îles britanniques, puis à nouveau sur le continent, sa santé faiblit encore et encore. Il est notamment pris d'interminables quintes de toux, de fièvres terribles. On craint même qu'une de ces crises un jour n'ait raison de lui. Seulement, cette fois-là, il arrive à se relever et il joue et il rejoue et toujours. Il rentre en Italie en 1834 après plus de 6 ans de tournée ininterrompue. 400 concerts triomphaux. Niccolo est devenu très riche, c'est certain. Il est à la recherche d'une stabilité. Alors, à l'époque, la duchesse de Parme n'est autre que l'ancienne impératrice Marie-Louise. Vous savez, duchesse de Parme, Plaisance et Guastalla. C'est elle qui le charge d'un projet de réorganisation de l'orchestre de sa cour. Il s'investit complètement dans le projet. Simplement, bientôt, il va devoir abandonner. Il est sans doute imprudent. Il a sans doute, une fois de plus, abusé de cette espèce de confiance en lui. Le voilà reparti sur la route, il est de plus en plus diminué physiquement. Maintenant, les concerts sont vraiment des prouesses, hein. Ça tient du miracle lorsqu'il arrive au bout d'un concert. Et finalement, même s'il l'ignore, il apparaît pour la dernière fois sur scène à Turin le 16 juin 1837. Là, ça n'est plus le magicien du violon qui s'exprime. C'est un homme malade, exténué, très célèbre, mais qui, à 54 ans, a l'air d'un vieillard. Il va d'ailleurs perdre aussi l'usage de sa voix. Seul son fils, le fidèle Achille, est capable de comprendre les espèces de râles qu'il émet péniblement. Niccolo n'abandonne pas la partie pour autant. Il s'accroche à des médecins qui, bizarrement, sont aussi optimistes que lui-même, a confiance dans la vie, dans sa force, dans cette extraordinaire destinée qui est la sienne. On peut dire que Paganini est porté par l'espoir d'une guérison. Il va d'ailleurs continuer à entreprendre. Il investit dans une espèce de projet de salle de spectacle à Paris, projet désastreux. Il se lance dans le négoce d'instruments. Il essaie d'utiliser son nom, bien entendu. Il échafaude toutes sortes de projets. Dès qu'il va un peu mieux, ça y est, on le voit repris par une espèce de fièvre qui explique peut-être un peu le passé d'ailleurs de cet homme. Pourquoi pas, se dit-il, pourquoi pas une tournée en Russie? Pourquoi pas une tournée en Amérique? Enfin, tout de même, ça devient de plus en plus difficile et l'on peut dire que la réalité s'éloigne des rêves de Niccolo Paganini. Finalement, au début de l'année 1840, il a échoué à Nice. Là, il ne peut même plus se déplacer. Il a beau essayer de se raccrocher à un espoir, son état ne laisse plus de doute sur une issue rapide. Et le 24 mai de cette année 1840, il sombre donc dans le coma. Et trois jours plus tard, il s'éteint dans une ultime, interminable quinte de tout. Vous avez bien compris que celui qui disparaît en Niccolo Paganini, c'est un musicien incroyable, bien entendu, dont le souvenir va continuer de hanter les mélomanes et les concertistes après lui. Ses compositions ont inspiré beaucoup, elles ont fasciné tous les violonistes, bien entendu, c'est un défi qu'il faut arriver à relever. Quant à son jeu, ce jeu virevoltant mais aussi poignant, ne l'oublions jamais. Quant à son sens de la performance qui faisait de lui une sorte de première star dans le monde de la musique, eh bien, ils en font un génie, ils en font un précurseur, même si on ne peut pas s'empêcher, à plus d'un siècle d'écart, de continuer de le trouver parfois un peu agaçant. Bonjour Alain Duhaut.
Bonjour Franck.
Je suis ravi que vous nous aidiez à mieux comprendre non seulement Paganini, mais tous les grands violonistes qui vont lui succéder.
Mais vous avez fort bien décrit cette fascination de Paganini qui, en vous écoutant, me faisait penser à deux personnages plus contemporains, Mick Jagger.
Eh oui, c'est vrai.
Le côté rockstar qui était celui de Paganini, et puis un violoniste contemporain, on pourra en parler, Nemanja Radulovic.
On y vient dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et c'est un début d'après-midi musical que vous nous proposez, Franck Ferrand, puisque les grands violonistes sont à l'honneur. Et pour nous parler des grands violonistes qui ont marqué l'histoire, vous recevez Alain Duhaut, écrivain, poète, musicologue et animateur de télévision et de radio.
Alors Alain Duhaut, avant d'en venir au violoniste, peut-être un mot en cette période de deuil, un mot de Pierre Boulez qui vient de nous quitter.
Bien, c'est une autre forme de virtuosité, mais une virtuosité beaucoup plus abstraite. Il est clair que la musique de Paganini est une musique qui s'adresse à l'ensemble du public, pas celle de Pierre Boulez.
Ah non, ça non.
Mais pour des raisons différentes. Je dirais que, au fond, il a eu une passion toute sa vie de la forme pure. Et comme le personnage que j'ai assez bien connu n'était pas un affectif, son idée n'était pas de transmettre de l'émotion, mais de transmettre des constructions qui pouvaient construire un avenir de la musique. D'une certaine manière, je dirais qu'il était un peu comme sont les Formule 1, vous voyez, qui ne servent pas à partir en vacances, mais dont le travail de mise au point peut servir dans la petite voiture qu'on prend pour partir en vacances.
Ce n'est pas un hasard, me semble-t-il, pour revenir à Paganini, que son incroyable succès précède de très peu celui d'un Liszt, par exemple. Le public de l'époque dans les grandes capitales est friand de virtuosité.
C'est exactement vrai. Je pense qu'on a dans ce siècle-là les deux extrêmes, l'extrême du violon, de virtuosité du violon, et l'extrême de virtuosité du piano, et qui sont la succession de l'extrême de virtuosité du chant au siècle précédent avec les castrats. Car, d'une certaine manière, cette folie-là, on l'a entendue d'abord dans les théâtres italiens, avec les castrats qui faisaient des choses extraordinaires, qui se présentaient, comme vous le disiez, de Paganini, dans des accoutrements parfois tout à fait étonnants, mais qui rendaient fous les gens par ce qu'ils entendaient.
On était dans une espèce de performance. C'était, si j'ose l'anachronisme, un show avant la lettre. Pas toujours de très bon goût, nous disent certains.
Vous savez, les shows, c'est jamais de très bon goût parce que on va toujours un peu à l'extrême. Et il y a forcément quelque chose d'un peu kitsch dans le show. Et j'imagine, on racontait par exemple une fois que Paganini entrait en scène dans une cape immense, doublée de rouge, avec un béret qu'il jetait à la scène. Un petit peu comme Madonna jetait d'autres éléments de sa tenue. Bon, et il y a des éléments qui sont un peu kitsch, mais ça fait partie du spectacle. Il avait le sens du spectacle.
Et de la communication, il faisait parler de lui, en bien, en mal, peu importe.
C'est en ça qu'il était moderne.
Mais voilà, on ne parlait que de lui.
Oui.
C'est curieux, ces premières stars naître. Vous parliez de Mick Jagger tout à l'heure. Radulovitch, évidemment, aujourd'hui, c'est un peu l'arrière-petit-fils de Paganini.
Exactement, il se présente de la même manière, avec des accoutrements insensés, une chevelure incroyable. Et en même temps, une virtuosité.
Absolument inouïe.
Quand il joue la Chardin de Monti, il faut avoir ça. Car la virtuosité sans la précision, c'est justement ce qui fait dériver vers des noms qu'on ne dira pas pour être poli.
Et c'est ce qui, sans doute, a un peu terni la réputation de Paganini sur le tard, lorsque toute dernière et très longue tournée qu'il va faire à travers l'Europe, il n'a plus cette précision, justement.
Non, parce qu'il était épuisé, tout simplement.
Oui, bien sûr.
Vous imaginez ce que c'était, traverser l'Europe en diligence, avec des chaos, avec le froid, il faut comprendre.
Incroyable.
Il n'y avait pas d'avion et TGV.
Et donc, des mondanités qui duraient des heures, des cours royales impossibles, etc. Et puis, des concerts qui duraient très longtemps et qui poussaient, et que, en tout cas, Paganini poussait jusqu'à des sommets.
Mais bien sûr. On s'en rend compte, vous avez très justement cité les 24 caprices. C'est à peu près l'Himalaya du violon. Et pour arriver jusqu'au 24e, il faut avoir non seulement un talent de virtuosité, mais une endurance extraordinaire.
Alors, en dehors du merveilleux archer de Yehudi Menuhin, on n'a pas beaucoup entendu de violon dans cette émission pour l'instant. Je vous propose quand même de commencer avec l'un des grands, qui lui n'est pas un virtuose, qui est un homme de l'émotion, avec Fritz Kreisler. Ça, c'est Liebeslied, c'est-à-dire le chant d'amour.
Chant d'amour, alors qu'il a composé aussi Liebeslied. On intervertit le E et le I, et cette fois, c'est la peine d'amour.
C'est lui qu'on entend jouer là, bien entendu.
C'est tout à fait extraordinaire, parce que c'est des enregistrements du début du siècle qui sont très bien restaurés. Mais pour faire le lien avec Paganini, Fritz Kreisler, il avait un charme extraordinaire, mais il avait surtout cette qualité pour lequel il a été le dernier, et il était comme Paganini, compositeur et violoniste. Car ensuite, au XXe siècle, on a eu toute une série d'artistes merveilleux dont on va parler, mais qui n'étaient qu'interprètes, qui n'étaient que violonistes. Tandis que de Paganini à Fritz Kreisler, eh bien, on a ceux qui travaillent pour eux. Je dis, il y a il y a Sarrasate, il y en a tous ceux qui ont composé pour eux-mêmes d'abord, comme Liszt le faisait pour lui-même.
C'était le but, c'était de se mettre soi-même en valeur,
et
en quelque sorte.
On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Et voilà, bien sûr, oui. Comment est-ce qu'on pourrait le définir, ce Kreisler ?
Kreisler, c'est le charme. C'est vraiment le charme. Et il faut pas oublier que c'est un Autrichien et qu'il y a ce que les Autrichiens appellent la Gemütlichkeit. C'est un mot assez intraduisible qui veut dire un mélange de charme, de douceur, de tendresse, de clin d'œil aussi. C'est ce qu'on a trouvé dans les valses de Strauss d'une certaine manière, mais qu'on retrouve chez Fritz Kreisler. Et il avait cette perfection sonore, mais toujours cette volonté de charmer qu'on entend dans la manière de donner des flexions à son violon. il faisait véritablement de la musique pour charmer son public.
Et c'est ça, il avait le sens de cette espèce de mélancolie qu'on trouve en Europe centrale.
Mais bien sûr, c'était très Mittal-Europa.
Rien à voir avec le violon de Jacques Thibault, par exemple, à Paris, qui
était le violon français.
Oui, c'est ça.
C'était véritablement la quintessence du violon français, c'est-à-dire la perfection, mais quelque chose de très tenu, une volonté, bien évidemment, de se présenter le mieux possible, mais on n'était pas dans cette espèce de douceur tendre de Fritz Kreisler, qui évoque plus la pâtisserie viennoise, alors qu'on est plus dans la clarté avec Jacques Thibault, la clarté, la lisibilité.
Vous parliez à propos de virtuosité de Sarrasate à l'instant, grand compositeur là encore.
Compositeur et violoniste.
Et violoniste, le voici interprété par un certain Heifetz.
Ah.
Phénomène, ce Yasha Heifetz.
La perfection. Vous savez, c'est tout à fait étonnant parce qu'on a entendu tout à l'heure Fritz Kreisler, on a parlé de Jacques Thibault. Eh bien, on a d'une certaine manière quelqu'un qui réalise en mieux ce qu'ils avaient chacun. C'est-à-dire que lui, il est dans la perfection absolue. Personne n'a jamais joué comme cela avant lui et il arrive à séduire sans jamais aller, justement, comme Fritz Kreisler,
sans
chercher.
Sans facilité.
Absolument. Perfection absolue, mais quelque chose de tout à fait étonnant. C'est une vie incroyable.
Il vient d'où, lui ?
Lui, il vient de Russie. Il naît en 1901.
Il commence à jouer à Saint-Pétersbourg, en fait. Hein.
Oui, mais il commence à jouer à 3 ans, surtout. et quand même, la chose la plus étonnante, inégalée, il joue le concerto pour violon de Mendelssohn à l'âge de 6 ans.
Oh, à l'âge de 6 ans.
Très vite, il est connu dans le monde entier. Il donne un concert à Berlin, en 1912, je crois, oui. Et en 1912, il a donc un peu plus de 10 ans, et Kreisler assiste à ce concert avec un certain nombre de violonistes parce qu'ils ont entendu parler de ce jeune phénomène. Et à la fin du concert, Kreisler a ce mot extraordinaire. « Mes amis, dit-il à ses amis violonistes, je crois qu'il faut tous briser nos violons sur nos genoux. » C'est tout à fait extraordinaire. Perfection, impassibilité, un masque totalement fermé. C'est-à-dire, c'est le contraire de la séduction à la Kreisler.
Tout est dans l'intériorité.
Tout est dans l'intériorité, mais dans la perfection. Et puis dans le jeu, parce qu'il a une manière de jouer tout à fait particulière. Il tient l'archet très haut.
Il va changer la position des violonistes,
exactement,
en fait. Hein.
Mais en tenant l'archet très haut sur son violon, il se permet ainsi des attaques qui sont plus puissantes, et il joue très près du chevalet, ce qui développe le son. Donc, il a une connaissance parfaite de son instrument, une connaissance de la sonorité, et il va développer ainsi une possibilité de jouer tout avec une perfection absolue. Vous savez qu'il y a une lettre de Georges Bernard Shaw qui est extraordinaire, qui lui est écrit un jour, « Monsieur Heifetz, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas possible. Vous jouez mieux que tout ce qu'on a entendu jamais. Il faudrait un jour que vous fassiez une fausse note chez vous, simplement pour qu'on voit que vous soyez humain, que vous n'êtes pas seulement hors du monde. »
Humanisez-vous un peu, monsieur Heifetz, voilà. C'est ça l'idée. Évidemment, il y a chez ce personnage une maîtrise extraordinaire. Il a vécu très tard, hein. Il est mort en 1987 seulement.
C'est vrai, mais il a arrêté de jouer un peu plus une vingtaine d'années auparavant.
Il ne recevait pas beaucoup de journalistes.
Non, c'était pas vraiment quelqu'un qui était convivial, si je veux dire.
Il n'était pas très chaleureux.
Mais ça se voyait sur son visage, impassibilité, mais perfection absolue.
Contrairement à un Yehudi Menuhin, évidemment, qui lui est une sorte de star qui était fait pour la communication. On y vient dans un instant avec vous, Alain Duhaut.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Les grands violonistes qui ont marqué l'histoire sont à l'honneur cet après-midi dans Au cœur de l'histoire avec vous, Franck Ferrand, et avec votre invité. Vous recevez cet après-midi Alain Duhaut, écrivain, poète, musicologue, animateur de télé et de radio. Et le dernier ouvrage s'appelle « Où vont nos nuits perdues ?» et autres poèmes. C'est un livre de poèmes préfacé par Xavier Darcos, paru il y a quelques semaines dans la collection Blanche chez Gallimard.
Et oui, c'est qu'il ne faut pas oublier que vous êtes aussi poète,
oui.
Alain Duhaut. Vous avez publié pas mal de recueils, et alors celui-ci
Là, c'est une anthologie, puisque cette fameuse et très célèbre collection de poches, Poésie Gallimard, qui est réservée d'habitude aux sommités qui sont en fin de carrière,
c'est
ou bien plus,
absolue, oui.
M'a accueilli, parce que c'est les 50 ans de cette collection, et Antoine Gallimard a décidé d'ouvrir cette collection à un vivant, c'est moi.
Bravo.
Et donc, en 300 pages, une grande série des poèmes de ces 15 dernières années, avec une belle préface de Xavier Darcos. Et ça permet, ça a l'avantage, si vous voulez, la poésie, c'est difficile aujourd'hui, mais ça permet, puisque ça se vend 8 euros, ça permet aux gens qui veulent découvrir la poésie d'aujourd'hui d'avoir un aperçu de ce qui se fait. Et c'est pourquoi j'en suis heureux.
Et la poésie d'Alain Duhaut, évidemment. Merci.
Où vont nos nuits perdues.
Où vont nos nuits perdues, c'est très beau. Et autres poèmes, donc, voilà. chez Gallimard. Vous avez, puisque nous parlons d'ouvrages, vous avez lu, j'imagine, le recueil de Jean-Michel Molcou, Les grands violonistes du XXe siècle.
Les deux volumes, d'ailleurs, ils viennent paraître.
Chez Buchet-Chastel.
Chez Buchet-Chastel, deux volumes qui ont un grand intérêt parce que, à côté des notices qu'écrit Jean-Michel Molcou, il y a des extraits musicaux, il y a des CD. Et plutôt que les analyses, on est d'accord ou pas d'accord avec ce qui s'écrit, ça c'est affaire de tempérament, mais ce qui est extraordinaire, c'est d'entendre la vérité sonore de tous ces grands artistes, et de ce point de vue-là, ce sont deux volumes tout à fait intéressants.
Alors on parlait de Heifetz à l'instant, il faudrait peut-être pas oublier David Oistrakh, qui a quand même
le roi David, comme on l'appelait.
Oui.
Le roi David, le grand violoniste russe, qui a cette particularité, puisque tous les autres ont quitté la Russie, lui il n'a jamais quitté la Russie, enfin, il a fait des allers-retours, mais il est toujours revenu.
Et compris à la pire période soviétique.
Exactement. Mais c'était aussi un très grand qui avait...
Il était considéré comme une sorte de sommité, même à l'époque soviétique. Hein. Il avait de grands égards, il faut dire.
En Russie, il faut dire que d'abord, il venait d'une vieille famille d'Odessa qui était très reconnue. Et puis, il avait aussi payé pour cela, puisqu'il avait fait des tournées un peu partout en Russie. Il avait quand même servi beaucoup à éduquer ce qu'on appelait les masses à l'époque.
Eh oui, bien entendu. Alors, j'ai promis à nos auditeurs qu'on parlerait de Yehudi Menuhin. Ah. C'est celui que nous connaissons le mieux, peut-être.
Ah oui.
Parce que, alors, lui, en revanche, a été très présent dans les médias. Vous l'avez bien connu, vous.
Moi, je l'ai bien connu, mais j'ai à chaque fois été émerveillé. Alors, évidemment, je ne l'ai pas connu à l'époque de ses débuts, parce que dans ses débuts, il est né, je crois, en 1916. Il émerveillait le monde. Vous savez qu'il y a une phrase très belle de Albert Einstein. Un jour, il donne un concert, il avait 12 ans, et Einstein vient
le petit Menuhin vient jouer devant Einstein.
Einstein assiste à ce concert, et il venait de jouer trois concertos de Bach, de Beethoven et de Brahms quand même à 12 ans, et Einstein s'écrit en le serrant dans ses bras: maintenant je crois en Dieu.
C'est
extraordinaire. Non, quand on entend les enchaînements de cette époque, c'est absolument époustouflant.
On l'a entendu tout à l'heure sur Paganini, justement.
Voilà. Mais il est évident que dans la deuxième partie de sa vie, ça a été moins un violoniste merveilleux, parce que dans les années 40, il a eu des problèmes de main droite, probablement parce qu'il était épuisé par toutes les tournées qu'il a données. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, il est allé donner plus de 400 concerts pour les soldats alliés. Tout ça l'a épuisé, et donc il a perdu.
Qui vivait dans son siècle, qui aimait échanger, communiquer et participer à la vie, y compris à la vie politique.
Hein. Mais c'était extraordinaire. Moi, je me souviens d'une conversation avec lui sur les Israéliens et les Palestiniens. Vous savez qu'il était, bien que juif, tout à fait pour la réconciliation avec les Palestiniens. Ça lui a valu des problèmes d'ailleurs. Parce que comme il avait joué, il a été le premier violoniste juif à rejouer en Allemagne en 1947 sous la direction de Furtwängler, qu'il avait contribué à la réhabilitation de Furtwängler. On lui en a voulu en Israël, mais il a toujours tenu à cet humanisme, car c'était avant tout un humaniste. Et ça s'entend dans sa musique.
Lorsqu'on parle d'un violoniste, on oublie parfois de parler du violon, mais c'est un couple, hein, si je puis dire, c'est très important. Ils ont chacun son grand instrument.
Alors, ils ont eu tous plusieurs instruments, mais ils en ont un marquant, comme vous le dites justement. Et pour Yehudi Menuhin, il y avait un Stradivarius qui s'appelle le Soil, et qu'on peut entendre aujourd'hui, parce que aujourd'hui, ce Stradivarius, c'est Isaac Pernal qui le joue.
Voilà.
Car il y a des filiations. De la même manière qu'un violoniste dont on n'a pas parlé, qui s'appelait Isaac Stern, était extraordinaire. Il avait un Guarnerius del Gesù, vicomte de la Panette, ils ont tous des noms. Et maintenant, c'est Renaud Capuçon qui
voilà,
le joue.
Bien sûr. Et j'ai eu la chance d'entendre le violon en question, si je puis dire, joué et par Isaac Stern et par Renaud Capuçon. C'est très difficile, évidemment, lorsqu'on n'a pas l'oreille d'Alain Duhau de percevoir la similitude. Mais tout de même, il y a quelque chose.
Mais oui, il reste quelque chose de la sonorité.
C'est ça,
car
voilà.
Chaque instrument est spécifique. Chaque instrument a ses bois, ses particuliers, a ses couches de vernis particuliers, a ce secret particulier des luthiers de Crémone. Mais c'est beau qu'il y ait cette filiation.
Vous parliez de Renaud Capuçon. Nous avons quelques grands violonistes français actuels,
quand même.
Faut le dire.
Renaud Capuçon, qui a 40 ans cette année et qui est un grand. Il y a aussi
Laurent Corsia.
Laurent Corsia. Je pense à Augustin Dumay.
Augustin Dumay, magnifique. Oui, bien sûr. Ah bon, il y a eu avant eux une violoniste, et alors la pauvre est morte dans cet accident très célèbre qui devait coûter la vie à Marcel Cerdan, c'est Ginette Neveu. Hein.
Oui, c'est d'ailleurs dommage parce qu'on a beaucoup plus parlé de la mort de Marcel Cerdan que celle de Ginette Neveu. Elle est morte à 30 ans, mais ce qu'elle avait enregistré, puisqu'elle avait débuté très tôt et très vite on l'avait enregistré, nous montre qu'elle avait un tempérament extraordinaire et qu'elle s'est d'emblée affirmée, peut-être parce que c'était justement la première femme à s'illustrer dans ce monde qui était très masculin, mais elle avait une énergie dans son jeu qui était tout à fait remarquable et qu'on retrouve d'ailleurs dans une jeune violoniste allemande aujourd'hui qui s'appelle Julia Fischer et qui, à mon avis, a cette même puissance.
Oui. Et cette puissance, c'est peut-être ce qu'il y a de plus étonnant chez une femme. On la connaît aujourd'hui également chez Anne-Sophie Mutter, bien entendu.
Anne-Sophie Mutter, la découverte de Karajan, on connaît tous la légende, il l'a entendue à l'âge de 13 ans, et à 14 ans, il l'a amenée à la Philharmonie de Berlin pour la faire jouer. Enfin, c'est vrai qu'elle a cette puissance qu'on voit d'ailleurs dans son apparence. C'est pas le cas de Julia Fischer, qui est beaucoup plus frêle, mais qui a la même puissance.
Alors c'est une émission de plaisir aujourd'hui, Alain Duhau, bien entendu. Faisons-nous plaisir. Vous avez tout à l'heure cité Isaac Perlman. Le voici en train d'interpréter tout simplement la méditation de Thaïs de Massenet. Extraordinaire Isaac Perlman jouant sur le fameux Soil, le grand Stradivarius, cette méditation de Thaïs de Massenet.
L'ancien Stradivarius de Menuhin.
C'est ça, oui. C'est une merveille.
C'est une merveille. C'est tout à fait ce que voulait Massenet, ce moment où, dans la nuit, Thaïs, puisque c'est tiré d'un opéra, Thaïs médite sur elle-même pour changer de vie et on a ce sentiment, la nocturne, comme un nocturne. À propos de nocturne, vous savez que quand Paganini a donné un concert à Varsovie, Chopin y assistait et qu'il a écrit une lettre absolument, de délire absolu.
Il faudrait arriver d'ailleurs à mettre en correspondance tous ces très grands compositeurs et interprètes de l'époque qui finalement ont enflammé l'Europe et ont peut-être contribué à donner à la musique que nous appelons nous aujourd'hui la musique classique cette espèce de dimension qui est la sienne.
Et un langage européen avant qu'on ne parle d'Europe.
C'est ça, c'est une sorte de vol à puc en beaucoup plus joli, évidemment. C'est Isaac Perlman qui a 70 ans.
Il est 45.
Il est plutôt le disciple, si je puis dire, ou l'épigone de Kreisler, de Menuhin, de...
Vous savez, je pense qu'il est un peu de tout cela et de Heifetz. Il a la perfection de Heifetz, il a le charme absolu de Kreisler et il a l'humanité de Menuhin. Et donc il réunit tout ce qu'on attend au bout de ce siècle, de ce 20e siècle qui a été si riche en violonistes, tout ce qu'on attend pour transmettre l'émotion dans la perfection et la volonté d'aller vers l'autre. Et c'est d'autant plus important quand on sait que quand même ce malheureux Isaac Perman a été atteint par la poliomyélite à l'âge de 4 ans et qu'il joue depuis toujours dans un fauteuil roulant. Ça impressionne d'ailleurs toujours les gens quand on le voit entrer en scène, porté, posé sur une chaise.
Extraordinaire.
Et on oublie ça au bout de quelques mesures, oh oui, parce qu'il transcende complètement ça.
Merci infiniment Alain Duhaut. Je Merci rappelle donc l'ouvrage en deux volumes de Jean-Michel Molcou, Les grands violonistes du XXe siècle, qui vient de paraître chez Buchet-Chastel. Également un ouvrage très intéressant qui vient de sortir là chez Actes Sud, c'est Adolphe Busch, le premier des justes d'André Tuboeuf, avec une préface de Renaud Capuçon. Et d'ailleurs je signale que dans quelques jours, là, le 19 janvier à la Philharmonie de Paris, Renaud Capuçon, avec son quatuor, rendra hommage à Adolphe Busch. Donc c'est une soirée qui inaugure un cycle de concerts programmé justement par Renaud Capuçon. Et puis bien entendu, une autre musique, une musique des mots, c'est la vôtre, Alain Duhaut. Où vont nos nuits perdues et autres poèmes? C'est édité dans la collection très prestigieuse NRF Poésie chez Gallimard. Merci infiniment.
Et dans un instant, ça tombe bien Franck, retour aux origines, consacré aux origines du violon. C'est dans moins d'une minute sur Europe 1.
Europe 1. Au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et voilà, presque une heure, Franck, avec votre invité Alain Duhaut, vous nous parlez des grands violonistes de l'histoire. Et c'est un retour aux origines de circonstances, puisque Jérémy voulait connaître les origines du violon.
Oui, c'est un retour aux origines, Anissa, mais en fait, on aurait dû même commencer par là, par les origines même du violon. Alors, vous savez que les instruments à cordes existent depuis l'Antiquité. Au Moyen-Âge, un grand nombre d'instruments à cordes frottés par un archet font leur apparition, notamment dans le monde arabo-musulman. Un des premiers s'appelle le rebab. Cet instrument va arriver en Europe à travers l'Espagne maure. Hein, on est allé à l'époque, évidemment, de la domination arabe sur l'Espagne. C'est sans doute cet instrument l'ancêtre de notre vielle, puis de la viole. D'ailleurs, la vielle est désignée sous le nom de viole de bras par opposition à la viole de gambe, vous savez, la viole de jambe, si l'on veut. Progressivement, tous ces instruments vont évoluer. Ils passent à 5, puis à 6 cordes. On raffine donc l'instrument. Au XVIe siècle, le violon devient un instrument populaire en Europe. Les premières mentions qu'on en ait datent des années 1520. On parle en italien de violino. C'est un terme qui signifie simplement violino. C'est la petite viole, hein, tout simplement. Et c'est donc l'Italie qui va devenir, si j'ose dire, la capitale de fabrication de tous ces instruments, notamment la région de Milan, à Brescia exactement. C'est une très jolie petite ville, Brescia, que je vous conseille, même si elle est très industrialisée aujourd'hui. C'est de là que vient, en quelque sorte, le violon tel que nous le connaissons. On en fabrique aussi à Anvers, à Bruxelles, un peu partout. Dans les années 1560, le roi Charles IX, le roi de France, dont la mère n'est autre que Catherine de Médicis, évidemment, une Italienne, une Florentine, va commander 24 violons à un luthier de Crémone, qui s'appelle Andrea Amati. Amati crée comme ça une dynastie familiale de luthiers, et entre ces 1790 et 1750, et bien là, c'est l'âge d'or de la lutherie grâce au célèbre Antonio Stradivari, qu'on appelle donc Stradivarius et dont nous avons parlé pendant tout le cours de cette émission avec Alain Duhaut. Là, on peut dire qu'avec Stradivarius, le violon atteint son point d'extrême perfection, ce qui n'empêche pas l'instrument de continuer à évoluer jusqu'à la fin du 19e siècle. Il y a même encore aujourd'hui des petites évolutions, mais qui nous feraient entrer très loin dans la technique. La morphologie globale de l'instrument, elle, n'a plus changé.